Chers amis de l'écologie, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau, et de l'émission Un pas de côté sur Graphite 94.9, bonjour. Un jour, un chercheur a découvert un insecte quasi intact dans une goutte d'ambre fossile. Cet insecte, qui vivait sur Terre il y a plusieurs millions d'années, n'était autre qu'une abeille. Et à la merveille que représentait cette découverte, a succédé l'étonnement de constater la très faible quantité de différence avec notre abeille commune actuelle. Ce qui signifie que, dès cette époque, notre insecte avait la capacité de résister aux nombreux changements, en particulier climatiques, qui ont affecté notre globe depuis ce lointain passé. Même la gourmandise des hommes, qui pendant des siècles les a poussés à détruire ses nids pour s'approprier son miel, n'a pas réussi à faire disparaître ce tenace hyménoptère. Et voilà qu'après tant d'avanies et tant de résistance, celui-ci peut-être va s'éteindre. En effet, selon un récent rapport de l'organisme Bee Informed Partnership et du ministère de l'Agriculture, les apiculteurs américains auraient perdu 42% de leur colonie d'abeilles domestiques en un an. C'est la seconde plus grande perte du secteur. Les ruches américaines ont été tellement décimées entre avril 2014 et avril 2015 que les professionnels et même le ministère de l'Agriculture pensent que le secteur ne pourra pas s'en relever. Surtout que la mortalité des abeilles ces dernières années reste inexpliquée. Les mites, les parasites, les maladies, les pesticides et autres pollutions ont tous été montrés du doigt pour tenter d'apporter une réponse à l'effondrement des colonies. Les États-Unis sont déjà confrontés à la disparition des insectes pollinisateurs sauvages qui assurent tout naturellement la reproduction des plantes. Aux USA, les abeilles domestiques viennent donc à la rescousse, transportées par camions entiers sur plusieurs centaines de kilomètres, au bout desquels les ruches sont disposées dans les grands vergers aspergés de pesticides. Le phénomène ne date pas d'hier, car des disparitions importantes d'abeilles ont été localement décrites dès 1896. La production de miel, là-bas, a commencé à décroître dès l'après-guerre, passant de 120 000 tonnes dans les années 1960 à 67 000 tonnes en 2011. La crise des années 2006-2007 est toute récente de l'an passé, s'inscrit donc dans une continuité dont les derniers épisodes attestent toutefois d'une aggravation du phénomène. En Europe, le syndrome d'effondrement des colonies a fait son apparition plus tardivement, mais avec une grande acuité, ravageant des ruchers entiers, conduisant nombre de professionnels à renoncer à leur activité. À titre d'exemple, durant ces deux dernières années, les apiculteurs de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales ont perdu jusqu'à 70% de leur cheptel. Et ce syndrome n'est pas le seul à frapper durement le petit peuple des abeilles. Le varroa, puis le frelon asiatique se sont répandus peu à peu dans toute l'Europe et occasionnent à leur tour d'importants dégâts. Le varroa, c'est un acarien visible à l'œil nu, mais très petit, qui est passé de l'abeille d'Asie Apis serena à notre abeille européenne Apis mellifera au début des années 1980, sans doute à cause de l'importation de rennes. Depuis, ce parasite a gagné la totalité des départements français, infestant les ruchers, s'attaquant aux ouvrières et bourdons adultes, mais également aux larves. La femelle varroa, très prolifique, pond ses œufs dans les cellules de couvain, et ainsi les jeunes parasitent les larves pour se développer à leurs dépens. Le frelon asiatique, lui, arriva en Aquitaine en 2004, au milieu de poteries importées de Chine. Et on constate sa présence aujourd'hui jusqu'en Île-de-France. Particulièrement agressif, y compris à l'égard de l'homme, s'il est dérangé, c'est un terrible prédateur pour les abeilles, dont il aime se régaler. Une dizaine de frelons en vol stationnaire suffisent à décimer une colonie en quelques jours. Très prolifique, il forme d'énormes colonies, en construisant des nids dont le diamètre peut atteindre 1 mètre, et dont la destruction s'avère d'autant plus délicate que celui-ci peut se trouver dans les hautes branches d'un arbre, parfois à plus d'une dizaine de mètres de hauteur. Si les apiculteurs ont mis en place, vaille que vaille, un système de défense, préventive par la capture des femelles fondatrices, curative par la destruction des nids au dioxyde de soufre, le problème du frelon asiatique demeure préoccupant, d'autant que les pouvoirs publics semblent n'avoir pris conscience que tardivement de son ampleur. Le cas de ce nouveau prédateur, cependant, devrait être, à terme, si ce n'est totalement résolu, tout au moins contrôlé. Il semble ne pas en être de même, en revanche, pour l'affaiblissement des colonies et la prolifération du varroa que j'évoquais précédemment. De nombreux professionnels accusent, en particulier en France, un groupe de pesticides appelé néonicotinoïdes, apparu sur le marché en 1993. C'est en effet à partir de cette date que le phénomène d'affaiblissement des colonies est apparu, ou tout au moins fortement accentué. Ce type de produit, dont le fameux Gaucho de Bayer fut le premier dans notre pays, possède la particularité d'être systémique, c'est-à-dire qu'il pénètre par la plante, par son système racinaire, et diffuse dans toutes les parties de celle-ci, dont le pollen et les feuilles qui transpirent une eau imprégnée de produit. Les abeilles, en venant butiner, s'imprègnent de ce poison dont un des effets majeurs semble être la perte du sens de l'orientation. Les butineuses, alors, ne retrouvent plus le chemin de la ruche et meurent loin d'elle. De nombreuses études, souvent contradictoires, ont porté sur les effets de ces néonicotinoïdes, avec, comme on l'imagine, de très puissantes pressions des firmes productrices. Mais les plus récentes de ces études tendent à confirmer l'influence néfaste de ces produits sur l'ensemble des insectes pollinisateurs, dont l'abeille. Pour ma part, je voudrais relever un point qui me paraît tout aussi important. Il y a quelques années de cela, j'avais eu l'occasion de voir un reportage sur Arte relatif à ce problème de la disparition des abeilles. Dans cette vidéo, l'enquête d'un chercheur suivi par les journalistes avait conclu à la multiplicité des causes du phénomène. Sans minorer nullement l'influence prédominante sans doute des produits utilisés en agriculture industrielle, le scientifique relevait également différentes influences qui se conjuguaient pour produire les effets négatifs observés. Il s'agit là de ce que l'on nomme aujourd'hui l'effet cocktail. Un seul de ces phénomènes n'est peut-être pas suffisant pour être totalement nuisible, mais c'est la conjugaison, l'empilement de ceux-ci qui produit le résultat que l'on observe. Pour en revenir à ce film, j'avais relevé la question de la nourriture des abeilles et son rapport avec la force de la colonie. Les colonies, situées aux abords de prairies fleuries, de bois, aux nombreuses variétés végétales différentes, étaient bien plus fortes et plus saines que celles qui ne trouvaient leur pâture que dans des champs monofloraux. Les entomologistes ont parfois comparé l'homme et l'abeille, en trouvant bien des similitudes entre les deux espèces, pourtant fort éloignées l'une de l'autre. Sans rentrer dans ce débat, imaginons un peu ce que nous deviendrions si nous n'avions dans notre assiette, jour après jour, que toujours le même plat. Outre l'évidente lassitude que nous éprouverions, il est à craindre que notre corps n'éprouve, lui, un grave déficit de nombreux ingrédients nécessaires à notre santé. Protéines variées, vitamines, oligo-éléments. Comment ne pas tomber malade alors, lorsque se présentent en sus poisons chimiques, parasites divers et prédateurs? Un proverbe arabe ne dit-il pas que l'on creuse sa tombe avec ses dents? Mais alors, que faire pour inverser cette tendance au désastre? Eh bien, le remède, une fois de plus, est entre nos mains. Refusons la malbouffe industrielle. Redonnons leur chance aux petits agriculteurs, aux circuits de proximité, aux AMAP dont nous avons parlé il y a peu de temps, aux maraîchers périurbains. Favorisons l'agriculture biologique. Il est faux de dire que ces produits sont beaucoup plus chers. C'est là aussi une question de modération, de changement de régime. À prix identique, vaut-il mieux manger un beefsteak issu des filières conventionnelles ou des œufs de poule qui courent nourris sainement? Est-il indispensable de consommer des desserts tout préparés dont le taux de sucre bien trop élevé fait la fortune des betteraviers industriels alors qu'un fruit bio sera d'un apport beaucoup plus riche? Une fois de plus, un petit changement de nos habitudes peut entraîner de grandes évolutions de notre société. Faisons-le pour nous, pour nos enfants et pour les abeilles. À propos d'action, en voici encore quelques-unes, foisonnantes en ces mois de printemps. Et tout d'abord, puisque nous venons de parler de la chimie agricole, dans le monde entier, 50 pays et plus de 20 villes en France, dans le monde entier aura lieu le 23 mai une marche contre Monsanto pour défendre une agriculture durable et sans OGM. À Amiens, en Picardie donc, 4 départs de marche auront lieu à 14h pour aboutir à un forum d'information et de discussion sur les alternatives locales. Du 9 au 24 mai, c'est la 15e édition de la quinzaine du commerce équitable. Artisans du Monde se mobilisera pour sensibiliser et engager les citoyens à soutenir des modes de production, de distribution et de consommation plus respectueux des hommes et de l'environnement. À Compiègne, dans l'Oise, aura lieu une expo-vente artisanat, épicerie bio, équitable et salon de thé citoyen. Ce sera le vendredi 22 mai, de 16h à 19h, le samedi 23, de 10h à 18h, au 10 rue du Four Saint-Jacques, dans la ZAC de Royallieu. L'entrée est libre, le parking facile, et il y a un arrêt de bus à proximité. Nous parlions de maraîchage bio. Connaissez-vous l'ortillon de lune, avec un H, H-O-R-T-I-2-L-O-N, l'ortillon de lune, à Rivery dans la Somme? Le 31 mai, vous pourrez y découvrir les vertus, en particulier gustatives, des mauvaises herbes. Après cueillette, il y aura donc repas de plantes sauvages comestibles. Et le dimanche 7 juin, l'ortillon fêtera ses 30 ans de maraîchage bio. Vous avez bien entendu, 30 ans. Un éco-événement qui s'inscrit dans la semaine du développement durable. Agriculture, encore et toujours, avec la manifestation annuelle organisée par la région Picardie, le printemps de l'agriculture. De nombreux lieux sont à découvrir sur le site de la région. Ma petite préférence ira à la visite de la ferme de la Pâturelle, propriété de Karine, Olivier et Rémi Timmerman. À Quierzy, dans l'Aisne, cette famille sympathique produit un fromage excellent, le Manican, selon une recette ancestrale retrouvée par Karine et dans des conditions toutes proches de l'agriculture biologique. C'est un voyage passionnant à la découverte d'une façon de travailler à taille humaine. Le week-end des 6 et 7 juin s'annonce infernal et les amoureux de la nature, de l'écologie, n'auront le choix que de courir d'un lieu à l'autre ou de sacrifier quelques belles occasions. En plus des événements précédemment cités, voici encore que les naturalistes du Nord et de la Picardie vous proposent de participer les 6 et 7 juin à un inventaire faunistique du secteur de la vallée de l'Authie, en liaison avec l'association Picardie Nature. De son côté, l'Union régionale des centres permanents d'initiative pour l'environnement, l'URCPIE, organise une sortie nature sur le thème de la biodiversité des ripisylves le 6 juin à 9h30 à Orhuy. Qu'est-ce que c'est que la ripisylve? Eh bien, c'est une forêt linéaire qui pousse sur les berges des cours d'eau. Les racines des arbres qui la composent préservent les berges de l'érosion. L'entrelac des racines immergées abritent la rare musaraigne aquatique. Les pics creusent leur loge dans le tronc des vieux aulnes et de nombreuses espèces de chauves-souris les utilisent ensuite. Et si vous voulez simplement découvrir un jardin sauvage, c'est pas forcément ce week-end-là, initié par les membres de l'association Escargot Solidaire sur les bords de l'Oise à Compiègne. Allez vous promener quai du Clos des Roses pour voir ces petits enclos qui offriront bientôt aux passants légumes et fines herbes en toute gratuité. Cette initiative non autorisée n'a pas plu à la municipalité et une pétition circule pour défendre cette initiative innocente. Je ne peux achever notre chronique d'aujourd'hui sans évoquer un événement éloigné de nous géographiquement, mais qui ne peut qu'être proche de notre cœur. Je veux parler du tremblement de terre au Népal. Bien de grandes organisations comme Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde ou autres ont lancé des appels à dons et vous êtes sans doute nombreux à avoir répondu. Pour ma part, et sans aucune hiérarchie de choix bien entendu, je me contenterai de jeter un coup de projecteur sur une association relativement peu connue, dont l'action s'exerce spécifiquement auprès des femmes et des enfants de ce pays. Vous trouverez ses coordonnées précises en tapant son nom sur votre moteur de recherche. Il s'agit de ROKPA France, R-O-K-P-A. Notre solidarité avec les plus démunis, c'est l'amorce de cet avenir radieux que nous dessinons ensemble. À bientôt, solidairement, sur Graphite.